Amen. Alléluia. Le premier, vous pouvez prendre place. Le premier dans nos cœurs, le premier dans nos âmes, le premier en toutes choses. Ainsi sera-t-il manifesté. Je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Nous dirons au verset 25. Un passage très intéressant parce qu'il nous montre la pensée fondamentale de Jésus en ce qui concerne la loi. Donc nous lisons là, Luc 10, verset 25. « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Pour avoir la vie éternelle, on lui pose la question, que répond Jésus ? Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Vous savez, ce passage est très, très intéressant parce qu'il nous indique donc la conception fondamentale de Jésus en ce qui concerne la loi. Hein, donc, et vous remarquez que c'est une conception qui est très positive, puisqu'il lie l'observance de la loi à la vie véritable. Pour avoir la vie éternelle, il est question de la loi, c'est bel et bien le cas, nous le voyons ici. Et puis aussi l'amour, bien sûr, hein, tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Et c'est une conception à laquelle beaucoup de chrétiens, en particulier évangéliques, ne sont pas tellement habitués. Pourquoi ? Parce que dans le Nouveau Testament, nous voyons surtout le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul à sa suite, vous avez un grand combat entre d'un côté le légalisme et de l'autre la liberté en Christ, entre d'un côté le joug de la loi religieuse et d'autre part le salut par la grâce, entre d'un côté ceux qui prétendent mettre la loi en œuvre par leur propre force et de l'autre ceux qui connaissent la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Entre d'un côté ceux qui prétendraient être sauvés par leurs œuvres et de l'autre côté ceux qui savent qu'ils sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et ainsi, parce que Jésus et Paul à sa suite ont eu à lutter contre les pensées, les conceptions légalistes des pharisiens en leur temps, il a fallu qu'ils insistent longtemps sur l'aspect pédagogique de la loi, ce qu'on appelle comme cela, sur, je dirais, quelque part, une condition restrictive de la loi sur cet aspect de la loi qui condamne le propre juste orgueilleux. Et c'est vrai, et c'est juste que ce soit dit de cette manière-là. Et c'est pas faux, et c'est toujours nécessaire d'en parler aujourd'hui. Mais le problème, c'est que dans l'esprit de beaucoup de croyants, c'est cette conception, je dirais, restrictive, négative de la loi qui prime. Ils ont une conception déformée, imparfaite de la loi de Dieu. Pourquoi ? Bien parce que trop souvent, ils n'ont été instruits qu'en partie sur la question de la loi, et bien souvent aussi d'ailleurs, eux-mêmes n'ont pas cherché à aller plus loin et à connaître la pensée divine de la question dans l'Écriture tout entière. Et je dirais aussi, même dans le Nouveau Testament tout entier. Et ça, ce n'est pas sans conséquence sur leur vie. Parce que si nous n'avons pas une conception équilibrée et tout à fait biblique sur un sujet aussi important que la loi de Dieu, eh bien ça va mener à des conséquences déséquilibrées dans nos propres vies et dans notre croyance. Soit nous allons basculer du côté du légalisme, donc, soit nous allons basculer du côté du libertinisme, et les deux sont aussi mauvais l'un que l'autre. Soit nous allons tomber dans toutes sortes d'interdits alimentaires, des choses aussi extrêmes que le fait de ne pas porter des vêtements qui sont faits avec des fibres mélangées, des choses comme ça, ou alors nous ne voudrons plus rien, que plus rien nous soit imposé par personne, par qui que ce soit, ni quand que ce soit, même des choses qui peuvent paraître très raisonnables et qui, de toute évidence, sont des garde-fous indispensables pour chacun. Voilà. Donc, nous allons pouvoir développer trois grands points en insistant surtout sur le troisième. Déjà, nous parlerons de la nécessité universelle de la loi, des lois en général et de la loi en particulier. C'est quelque chose d'universel, universellement nécessaire. Ensuite, nous parlerons des raisons d'une question qui est sensible. Hein. Et enfin, nous développerons, Dieu voulant, sur la nécessité d'une conception positive de la loi pour le chrétien. Donc déjà, en premier, parlons de la nécessité universelle de la loi. Voici plusieurs remarques. Vous savez que dans le monde naturel, dans le monde matériel, dans le monde physique, il y a des lois. Il y a des lois de toutes sortes. Et ces lois sont nécessaires. Nécessaire pour l'organisation, la transmission de la vie. Et dans le domaine moral, dans le domaine social, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Une autre chose qu'on sait, c'est que dans cette création, les lois dites naturelles ne se contredisent jamais. Elles ne se contredisent pas. Hein. Bon, on est aujourd'hui devant des questions difficiles, hein, par exemple au niveau de la physique quantique, hein, donc ça c'est un domaine particulier, ou en astrophysique aussi, on a des choses qu'on ne comprend pas, par exemple en ce qui concerne la matière sombre, l'énergie sombre, des choses comme ça. Voilà, bon c'est tout. Mais malgré tout, on sait que les lois naturelles ne se contredisent pas l'une l'autre. Elles peuvent avoir beaucoup de différences. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de formes de vie qui existent à la surface de la Terre, hein. Et c'est là que nous voyons encore l'extraordinaire variété de pensée de notre Dieu, hein, de son imagination extraordinaire hein, au travers de tout ce qu'il a créé. Donc, que de manifestations variées. Et donc, il y a aussi des différences de loi, mais ces différences ne sont jamais contradictoires. Est-ce qu'on voit cela ? Et puis, d'autre part, il n'est pas inutile de rappeler que la loi, en particulier dans le domaine moral, dans le domaine social, c'est quelque chose qui est étudié dans le cadre de ce qu'on appelle le droit. C'est le droit qui étudie la loi. Et quand on parle de droit, vous avez l'idée de droiture, l'idée d'équité, bien sûr, l'idée de ce qui est rectiligne, de ce qui ne dévie pas, quelque chose qui n'est pas tordu, qui n'est pas tortueux, l'idée de ce qui est une norme, qui est littéralement qui est normale, donc une référence. Et je dirais une référence universelle. Et l'idée aussi des droits qu'on peut avoir. Hein, parce que voilà, nous pouvons avoir des avantages et des privilèges qui sont légitimes, qui sont justes, qui sont reconnus. Le droit explore cette question-là. Et aussi les conditions dans lesquelles on a ces droits, dans lesquelles on les conserve, et dans lesquelles on les met en œuvre. Et bien sûr, quand on parle de droit, il faut aussi parler de devoir, évidemment, puisque les uns sont clairement liés aux autres. Voilà. C'est quelques éléments pour nous rappeler déjà combien la loi est nécessaire à la vie. La loi n'est pas la vie, mais la loi est nécessaire à la vie, que ce soit dans le domaine naturel, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine même politique, écologique, et tout autant dans le domaine moral et spirituel, qui nous concerne tout spécialement ce matin, nous souvenons que les lois dans le domaine moral et spirituel sont à la base de toutes les autres lois. C'est parce qu'il y a des lois dans le domaine moral et spirituel qu'il y a des lois dans le domaine naturel et dans tout le reste. Donc il faut quand même se souvenir de l'importance de cela. Et tout ceci nous amène, voilà, à une question sensible. Une question qui a été sensible au travers des siècles passés et qui le reste aujourd'hui. Et quelle est cette question ? Eh bien, c'est la question de l'importance de la question de la loi par rapport à la question de la grâce. Et c'est quelque chose qui est plus que jamais délicat et sensible aujourd'hui, même si certains peut-être ne le réalisent pas, mais c'est important de le réaliser. Voilà. Il faut se dire qu'on est quelque part pris en étau entre deux faits. Hein, d'une part, tout ce qui concerne le passé, ce qui concerne l'histoire, surtout l'histoire de l'Église. Il s'est passé des choses, on n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Hein. On va essayer de voir un peu. Et puis l'autre partie de l'étau, c'est l'actualité dans laquelle on est, certains caractères de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors on va examiner ces deux points. Déjà concernant le passé, en particulier l'histoire de l'Église, vous savez, les grandes disputes, les grands débats, et puis ça a donné des guerres de religion même par un temps, hein, donc à la base de la réforme, la loi et la grâce mises en opposition, mais aussi la prédestination et le libre arbitre, liberté de choix, ce sont des choses qui n'ont jamais été résolues de manière satisfaisante pour tout le monde, entre catholiques et protestants par exemple, mais aussi même dans le courant de la réforme, tous les groupes chrétiens qu'il y a eu dans la réforme ont eu bien du mal à gérer cette question-là. Hein, par exemple, vous avez Luther. Luther, donc, un jour a déclaré que l'épître de Jacques, c'était une épître de paille. Hein, donc, qu'est-ce qu'il a montré par là ? Il a simplement montré combien peu quelle méconnaissance il avait des rapports qu'il y a entre la loi et la grâce. Il a bien juste démontré sa mécompréhension, le déséquilibre de son interprétation entre ce qui lie la foi et les œuvres. Hein, donc, et ça ne va pas être sans effet sur son attitude pendant la guerre des paysans à son époque, ou la position qu'il a prise à l'égard, à l'encontre des anabaptistes qui sont quelque part les anabaptistes qui sont nos ancêtres spirituels à nous hein, aussi. Donc voilà. Et de même Calvin aussi, par sa pensée, son dogmatisme extrêmement rigide au niveau de la prédestination absolue et de la grâce irrésistible. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien voilà, son idée c'est la suivante. Son idée c'est qu'il y en a qui sont prédestinés de toute éternité à être sauvés et d'autres prédestinés à être perdus depuis toujours. Voilà. Et puis, son idée, c'est encore que Dieu sait depuis toujours ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Il sait depuis toujours ceux qui sont destinés à être sauvés, et ceux qui sont destinés à être sauvés ne peuvent pas résister à la grâce de Dieu, dit-il. Hein? Donc, ils seront sauvés quoi qu'il en soit, puisque Dieu sait tout d'avance, puisque Dieu peut tout, et qu'il n'y a rien qui lui échappe. Ça, c'est sa théorie. Hein? C'est sa théorie, et cette théorie, bien sûr, ne peut arriver qu'à une conception réductrice de la loi. Hein. Ça veut dire que dans sa théorie, la loi n'a plus que très peu de place. Puisque la grâce est irrésistible, on ne peut pas lui résister, elle envahit tout. Quoi que vous fassiez, vous serez sauvé si vous êtes prédestiné. Donc vous pouvez faire n'importe quoi, vous serez sauvé. À la limite, c'est ça l'idée. Hein. Donc ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, Calvin n'a pas du tout agi comme ça. Dans la pratique, Calvin, il a agi même à l'inverse. Quand il est devenu l'autorité suprême à Genève, qui était à ce moment-là considérée un peu comme la Rome du protestantisme, il va se mettre en tête d'en faire la capitale du royaume de Dieu sur terre. Voyez-vous ? Donc, il va mettre en place un système légaliste, rigide. Lui, il va considérer comme spirituel, parce que lui, il peut s'y soumettre. Mais il s'imagine que les autres aussi sont comme ça. Mais à Genève, vous avez des tas de gens qui, comme aujourd'hui à Châlons, n'étaient pas convertis. Hein ? Donc, et puis d'autres qui pensaient être religieux mais qui n'étaient pas plus convertis. Alors ces gens-là, ils n'ont pas pu supporter le système. Donc c'est parti à l'échec. Son histoire, elle est partie à l'échec. Hein, donc, et en même temps aussi, ça a été la contradiction avec sa doctrine. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, avec un peu le recul de l'histoire, on peut se demander dans quelle mesure les héritiers de Luther et de Calvin ont pu s'affranchir de ces déséquilibres de pensée. Hein. Parce que lorsque vous examinez, par exemple, la gestion lamentable, calamiteuse du nazisme par les luthériens allemands, avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, si les luthériens, qui étaient quand même une majorité en Allemagne, il faut quand même se le souvenir, hein, s'ils avaient une doctrine qui était plus équilibrée bibliquement à ce moment-là, entre la loi et la grâce, hein, mettant en évidence l'importance des œuvres, hein, donc comme celle de la miséricorde de Dieu, eh bien, Hitler aurait certainement eu beaucoup plus de mal à mettre en œuvre ses mauvais desseins. Et si Dietrich Bonhoeffer et ceux qui l'ont suivi n'avaient pas été une petite minorité, mais avaient été une majorité, les choses auraient pu se passer autrement. Parce que lui, Dietrich Bonhoeffer, avait très bien compris et très bien exprimé l'importance des œuvres qui suivent et accompagnent la foi, et que l'obéissance à Dieu est primordiale comme preuve d'un vrai christianisme. Et il a été tué hein, par Hitler, ce Dietrich Bonhoeffer, nous le savons. Donc, et ça nous montre encore que les questions de doctrine, ce n'est pas quelque chose qui flotte en l'air, hein, c'est quelque chose qui a des influences puissantes dans l'histoire. Il faut quand même savoir cela. Et quoi qu'ils en disent, les évangéliques aujourd'hui sont largement influencés par ces discussions, avec leur complexité, leur contradiction dans les faits, trop souvent. Et ça, aujourd'hui, surtout, eh bien, on s'aperçoit que ça amène à un sentiment d'insécurité, à la sensibilité sur le sujet, à des discours passionnés, puis à de grands désaccords aussi. Pardon. D'autant plus que, et c'est notre deuxième point sur ce chapitre-là, concernant l'actualité. Il est évident que nous sommes aujourd'hui dans une société permissive et libertine au plus haut point. On le voit clairement. Hein. Au nom de la liberté individuelle, on a mis en doute tout l'héritage judéo-chrétien, comme on dit, hein, c'est-à-dire pas seulement ce qui est spirituel, mais aussi tous les principes moraux. Tout a été viré par-dessus bord. Hein, donc, on a fait sauter les repères d'absolu. On a mis en avant une morale relativiste. Hein. La grande recherche, c'est la liberté sans entrave de l'individu, l'hédonisme, la recherche maximale de la jouissance et du plaisir personnel, le profit maximal, le plus immédiat possible, avec des slogans comme « Après moi, le déluge » ou bien « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Donc, avec des principes comme ça, pauvre liberté, pauvre limite, s'il n'y a que ça, pauvre perception de la liberté. On a voulu enlever tout ce qui risquait de se mettre en travers de l'exercice d'une autonomie et d'une indépendance sans frein. Et c'est là qu'on a commencé aussi à remettre en question toutes les autorités. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à construire suffisamment de places de prison pour mettre tous les gens qu'on veut mettre dedans ? Pourquoi qu'on n'arrive pas à ça ? Pourquoi est-ce que la police et les autorités sont continuellement contestées ? Pourquoi les services fiscaux, l'éducation nationale ? Pourquoi est-ce qu'il y a un si grand nombre de maires qui démissionnent aujourd'hui parce qu'ils ont été frappés, insultés, maltraités ? Hein ? Pourquoi tout ça ? Hein ? Donc, la dernière barrière qui reste, trop souvent, enfin, qu'on essaye de garder, c'est celle du législatif, c'est celle du judiciaire, du juge. Qui fait appliquer la loi, et là encore, que de contestation. Alors aujourd'hui, on veut se réfugier derrière de nouvelles lois qu'on vote pour l'occasion et pour essayer de faire marcher la société, ce qu'on appelle des lois d'opportunité, au coup par coup, vous savez, comme ça. D'où cette véritable diarrhée législative, si on veut parler comme ça, actuelle. Aujourd'hui, en France, vous avez 20% des lois qui ont été votées, qui ne sont pas applicables. Il n'y a pas de décret d'application. Elles sont par conséquent pas observées et même parfois sont même pas observées par l'État. Par exemple, la loi sur le logement opposable, c'est une loi importante, on en attendait beaucoup au niveau social, l'État ne s'en occupe pas. Hein. Nous voyons donc que même pour nous, chrétiens, le contexte de cette société où nous vivons n'aide pas à une conception juste, apaisée et cohérente de la loi. Hein. On se trouve là de plus en plus clairement dans ce que l'apôtre Paul nous décrit dans 2 Timothée 3, verset 1er, que je lis. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Voilà ce que nous dit l'Écriture. Hein. Et là encore, il ne faut pas sous-estimer les influences que ça a sur les chrétiens et dans les églises, hein, et en termes de doute dans les cœurs, en termes de remise en question fondamentale, de perte de repères, de transgression, entre autres dommages collatéraux donc, qui peuvent être graves. D'où notre troisième chapitre qui sera le plus long. Hein, la nécessité d'avoir une conception équilibrée et positive de la loi. Alors déjà, commençons par l'Antiquité. Hein, parce qu'au départ, il ne faut pas se laisser enfermé, je dirais, dans une interprétation hâtive et partisane de certaines découvertes archéologiques. Parce que depuis deux siècles, on a fait des découvertes. On a découvert des recueils de lois antiques qui dataient même d'avant le mont Sinaï avec Moïse. Hein. Sous différentes formes, on a trouvé des stèles sculptées, gravées, des tablettes d'argile, des inscriptions hiéroglyphiques. Voilà. On a découvert les codes de loi sumériens, Acadien, Assyro-Babylonien, hein, on a découvert les tablettes de Tel Amarna, le code d'Amourabi, etc. Et puis on a dit, mais il y a des ressemblances entre ces codes de loi, hein, qui ne sont pas juifs, qui datent donc d'avant l'existence du peuple Israël, des ressemblances avec la liste des 10 commandements qui a été donnée par Moïse au mont Sinaï, avec toute sa série, donc on est arrivé à des amalgamatifs, on a dit, voyez-vous, Dieu n'a rien révélé du tout au mont Sinaï. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que Moïse a copié ce qui existait ailleurs, et ou au moins il a été largement influencé par la culture égyptienne dans laquelle il a été élevé, ça directement, et indirectement par la culture assyro-babylonienne. Voilà, donc il y a des gens qui ont raconté ça et qui racontent ça encore. Hein. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Ce qu'on peut répondre, c'est tout simple, je crois, c'est qu'il existe forcément des ressemblances entre les sociétés humaines. À partir du moment où il y a une société humaine, même si ses croyances sont différentes, même si ses cultures sont différentes, malgré tout, il faut quand même des règles qui protègent l'individu, qui protègent la famille, qui protègent la propriété individuelle, certains critères qui définissent le bien et le mal. Voilà, donc... Mais voilà, donc il y a des ressemblances. Mais la différence, la grande différence de fond se trouve au niveau des deux premiers commandements que nous avons dans la révélation de Dieu au mont Sinaï à Moïse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça nous montre la grande raison, la grande motivation de ces tables de la loi, et ça n'en trouve pas dans les autres codes de loi. Donc, ça implique en filigrane la nécessité de la nouvelle naissance. Donc, ça, c'est la première remarque qu'on peut faire dans ce chapitre. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'une loi qui est placée dès le départ sous le signe de l'amour. Nous voyons cela. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, et je dirais, c'est le ressort principal. Le ressort principal de ce code qui a été donné par Dieu au Sinaï à Moïse et qui n'a jamais existé dans, je dirais, toutes les listes de commandements concurrentes, quelle que soit leur utilité par ailleurs, c'est celui de l'amour pour Dieu et par conséquent de l'amour pour le prochain. Et c'est pour ça que nous voyons dans notre texte du début que Jésus y revient toujours. Il place là ce qui est le plus important dans la loi. Et ce qui résume toute la loi et les prophètes, c'est ce cadre fondamental de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain. Et il faut toujours que ce soit au départ. Et il faut toujours comprendre, on ne peut pas vraiment comprendre la question de la loi si on ne peut pas vraiment l'interpréter de la bonne manière en ce qui concerne l'amour. Puis une troisième remarque que nous faisons encore, il y aura neuf, tenez bon. Il faut aussi considérer que cette loi est placée dès le départ sous le signe de la grâce. Et ça aussi, ça n'existe pas dans les autres codes de loi qu'il peut y avoir. Lorsque vous regardez le livre de l'Exode, du Lévitique, du Deutéronome, vous y trouvez une multiplicité, une continuité de sacrifices. Question continuellement de sacrifices, et de sacrifices pour le péché, parce que la loi de Dieu ne traite pas la question du péché par-dessus la jambe. Elle relève le péché, elle le dénonce. Il n'y a pas de laxisme. Pourquoi ? Parce que la justice de Dieu, la sainteté de Dieu nécessite cela. Mais les différentes sortes de sacrifices correspondent aux différentes sortes de péchés. Et donc sont là pour nous montrer combien Dieu prend soin que les différentes sortes de péchés puissent être pardonnés. Qu'ils puissent être tous couverts par du sang des sacrifices, en attendant le moment de celui qui offrira le sacrifice parfait qui les enlèvera tous, c'est-à-dire en attente de Jésus mourant sur la croix pour les péchés du monde. Et voyez combien le législateur divin prend soin que l'argent ne soit pas un obstacle, puisqu'il prévoit des sacrifices de tourterelles et de jeunes pigeons qui sont très peu chers, afin que même les plus simples et que même les plus humbles puissent avoir accès à cette grâce-là. Amen. Et puis cette grâce, je dirais, elle se fait même ressentir à niveau de tous les fonctionnements des commandements pour la société. Évidemment, la peine de mort existe dans la loi du Sinaï, mais ça c'est parce que sinon les tensions sociales seraient insupportables. On ne peut pas comparer la société de cette époque-là et de ces moments-là avec la société dans laquelle nous sommes. Donc, parce que déjà, rien que le système des prisons, c'était pour mettre les gens à l'abri des meurtriers, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se concevoir à l'époque. Donc, il fallait bien trouver une solution. Mais il y a quand même une très grande différence, on le voit, entre les châtiments barbares, mutilant, dégradant, infligé par le moyen des codes de loi païens de l'époque, et d'autre part, la mesure, la pédagogie, la correction constructive, la possibilité de repentance qui sont mises en évidence dans le cadre de l'Ancien Testament par la loi donnée au mont Sinaï par le Seigneur. Amen. Puis que voyons-nous encore ? Une quatrième chose, c'est que cette loi, la loi qui est donnée, par Dieu, c'est une loi qui est destinée à leur apprendre à gérer la liberté qu'il leur a donnée. Et ça aussi, c'est très important. Hein. Et là encore, vous avez une énorme différence avec beaucoup d'autres civilisations antiques et leur propre code de loi. C'est que cette loi du Sinaï a été donnée à un peuple d'esclaves. Il faut quand même s'en souvenir. Hein. C'est Dieu qui les avait libérés de l'Égypte à main forte, à bras étendus, par de grands miracles, par de grands prodiges de terreur. Et quand il leur donne les tables de la loi, ils viennent tout juste de sortir de leur condition d'esclaves. Ils viennent juste de goûter à la liberté pour la première fois de leur vie. Et c'est quelque chose d'inconnu pour eux. C'est quelque chose de tout nouveau. C'est une, je dirais, c'est un peu comme une boisson grisante à laquelle on goûterait pour la première fois, avec toutes sortes de promesses, d'héritages extraordinaires, de pays promis, d'avenir, de bénédictions, d'approbation de Dieu, de lendemain qui chante quelque part. Hein. C'est inimaginable pour eux à ce moment-là. Imaginez un gamin de 18 ans auquel on donne, le jour de son anniversaire, les clés d'une voiture neuve, celle d'un bel appartement, la carte bancaire d'un compte bien garni, avec la promesse assurée de pourvoir à tous ses besoins, avec toute la liberté. Hein. Que diraient des parents responsables? Ils diraient, attention, et pas trop vite. Pas tout d'un coup, hein. Il faut qu'il apprenne à gérer. Je pense que des parents responsables, ils auraient commencé à apprendre à gérer bien avant les 18 ans. Donc, en tout cas, sinon, ces choses qu'on veut être pour lui des gains vont être une perte pour lui, vont être une occasion de chute pour lui. Ça va le mener beaucoup plus à la catastrophe qu'à autre chose. Et nous voyons bien d'ailleurs que, pour en revenir au peuple d'Israël, s'ils avaient été libérés physiquement de l'Égypte, ils étaient encore captifs, ils étaient encore esclaves dans leur tête. Ça, c'est une chose évidente. Hein, esclaves dans leur mentalité, esclaves culturels. Car qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font peu de temps après que Moïse soit monté au mont Sinaï pour y jeûner pendant 40 jours et 40 nuits et que Dieu lui donne les tables de la loi? Eh bien, pendant ce temps-là, ils sont en bas, ils se fabriquent quoi? Un veau d'or. Hein, et ils font directement une copie du bœuf égyptien Apis, qui est l'idole qui reste dans leur mémoire collective, et ils disent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et ils se lèvent et ils se divertissent, ils se livrent à la débauche, c'est marqué exactement comme ils ont vu faire aux Égyptiens. Tout leur code culturel, historique, religieux, spirituel, tout leur code de société sont imprégnés de paganisme égyptien. Toute leur mentalité est encore pleine de l'Égypte. Malgré tout ce qu'ils y ont bavé, malgré tout ce qu'ils y ont souffert, ils sont encore esclaves dans leur tête, et c'est là le pire et le plus profond des esclavages. Et c'est ça le problème. Je pense que c'est pour beaucoup de gens, même des gens qui viennent au Seigneur, c'est un réel problème. Pourquoi? Bien parce que l'esprit du monde est là pour nous imprégner encore. Hein. Parce qu'il y a cette vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. On ne l'a pas demandé, mais c'est dans notre héritage, c'est là, point, c'est tout. On ne peut pas changer la chose, hein. Parce qu'il y a ces puissantes tendances inconscientes qui nous poussent toujours à réagir d'une façon charnelle et pas spirituelle. Il y a ce qu'on est conscient, peut-être, qui n'est pas à la gloire de Dieu, on veut y résister, mais il y a aussi tout ce qui nous marque profondément dans notre inconscient, dans notre subconscient, et par définition, bien sûr, on ne peut pas le contrer puisqu'on n'est pas conscient. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'il faut faire? On peut prendre un exemple pour comprendre ça un peu plus profondément. Hein. Celui de la montée de l'idéal communiste, marxiste-léniniste, dans les sociétés occidentales au début du XXe siècle. Rappelons un petit peu ça, Karl Marx est né en Allemagne, et puis ensuite il a vécu, il est mort en Angleterre, et puis lui pensait que c'était en Grande-Bretagne que ses idées allaient rencontrer le plus de succès. Pourquoi? Parce que le capitalisme c'était le plus fort, parce que c'est là qu'il y a le plus d'ouvriers, etc. Et puis lui, voilà, ce qu'il pensait, c'est que la lutte contre le capitalisme et aussi contre la religion qui était considérée comme l'opium du peuple, eh bien, ça allait amener à la dictature du prolétariat. Hein. Donc, ça, c'était ce qu'il attendait. Or, il est arrivé quelque chose de tout différent de ce qu'il pensait, hein, sur ce point. Parce que les sociétés les plus industrielles n'ont pas donné les plus grands partis communistes. Parce que regardez aux États-Unis, en Angleterre, en Europe du Nord, c'est là qu'il les attendait, lui. Mais ce n'est pas là qu'il y a les plus partis communistes les plus forts, hein, on s'aperçoit. C'est plutôt dans les sociétés où vous avez eu des religions, je dirais, de caractère absolutiste, hein, comme le catholicisme, hein, donc, ou l'orthodoxie. Eh bien, c'est là que se sont développés les partis communistes les plus puissants. Hein, donc, et il y a des sociologues, Max Weber est en tête, donc, qui... voilà. qui ont analysé les raisons de ce phénomène beaucoup mieux que moi, et qui, ça, c'est quelque chose qui aurait beaucoup, beaucoup surpris Karl Marx s'il avait vécu assez longtemps pour le voir. Hein. Mais ces sociologues ont démontré qu'il y a beaucoup de ressemblances, et c'est pour ça que les gens marchent dedans, il y a beaucoup de ressemblances entre le système catholique, mettons, ou orthodoxe, d'une part, et le système communiste de l'autre. Dans les fonctionnements, il y a beaucoup de ressemblances. Hein. Déjà, dans les deux, des deux côtés, vous avez une hiérarchie bien structurée qui est pyramidale. Ensuite, des deux côtés, vous avez un ensemble de dogmes et de doctrines très structurés. Et puis, vous avez une puissante volonté de domination dans les deux, une puissante volonté hégémonique. Hein. Et puis, vous avez dans tous les deux un idéal radieux de lendemain qui chante. Qui ne sont pas accomplis, mais qui chantent, voilà. Et puis, vous avez aussi, dans tous les deux, une intolérance fondamentale à d'autres croyances qui vont jusqu'à la persécution. Dans les deux, vous trouvez ça. Et donc, on a démontré aussi que les pays qui étaient de culture plutôt protestante, où ces caractères sont, je ne vais pas dire absents, mais beaucoup moins actifs, eh bien, ils n'ont pas donné prise au communisme, ces pays-là. On s'aperçoit, même si le capitalisme y triomphait, ils n'ont pas donné prise au communisme. Et c'est ainsi qu'a été mis en évidence un fait extrêmement frappant. C'est que toute une société, ou de très grandes parts d'une société, vont être influencées inconsciemment dans leur choix par ce qui leur a été transmis, légué, qu'ils le veuillent ou non, par ce qu'ils ont hérité, et que même s'ils prétendent secouer le joug, même s'ils prétendent briser leur chaîne, ça les entraîne, ça continue à les suivre, et ça va continuer à les diriger pour une grande part dans leur choix. Aujourd'hui que le Parti communiste a perdu la plupart de ses membres et que l'idéal communiste a été abandonné par beaucoup, qui sont devenus déçus, blasés, qui d'ailleurs sont souvent passés à l'inverse, hein, de l'autre côté. Donc on voit bien que de toute façon, l'homme ne peut pas échapper par ses propres forces à ce lourd héritage qui le modèle, qui le formate, qui le rend esclave, qui pèse sur lui beaucoup plus qu'il ne s'en rend compte, beaucoup plus qu'il ne veut bien l'admettre en général. Donc voilà, et c'est pour ça, mes amis, qu'il ne faut pas moins que la puissance de Dieu pour nous libérer complètement. Et l'affirmation de l'apôtre qui nous dit « Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libres. » Hein, c'est quelque chose qui prend tout son sens dans ce contexte-là. Il faut vraiment venir à Christ pour expérimenter le verset suivant. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses nouvelles. Pas seulement en surface, mais en profondeur, jusqu'au plus profond de notre être. Et c'est là encore que Romains chapitre 12, verset 2 prend tout son sens. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de la compréhension, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis, rappelons l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de quoi ? De quoi ? De quoi ? Rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Voilà la volonté, le désir de Dieu pour nous. Voilà ses promesses. Voilà sa puissance agissante en notre faveur. Voici l'assurance d'une grande et profonde délivrance. Voici les moyens divins pleinement efficaces pour éradiquer le plus profond de ce qui en nous nous lie et nous rend esclaves pour nous donner pleinement accès à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Vous savez, il y a bien des croyants encore qui se disent croyants, qui en ont bavé du monde, hein, qui ont terriblement souffert à cause du monde, qui ont été libérés, guéris, oui, par la puissance du Seigneur, que le Seigneur a tiré du monde pour les emmener vers le pays promis, et qui sont encore esclaves du monde, sont encore esclaves du péché, dont l'esprit est rempli des préoccupations du monde, hein, dans leur tête. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean est obligé de dire « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 1 Jean 2, verset 15. Ou encore l'apôtre Jacques, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Jacques chapitre 4, verset 4. Et c'est pour ça que la question de la libération revient avec une telle force, avec une telle importance dans les trois textes fondamentaux de la loi qui nous sont donnés. Quels sont ces trois textes ? Eh bien déjà, le premier, Exode chapitre 20, c'est lorsque Dieu donne les tables de pierre à Moïse au mont Sinaï. Hein. Je ne vais pas relire le passage qui va du 2 au verset 24, verset 2 au verset 24, où il est question des, pour la première fois des 10 commandements de l'Écriture. Mais malgré tout, je remarque qu'en introduction, en motivation première, vous avez le rappel de leur libération. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Voilà. Et puis, vous y avez aussi, dedans, en passant, le rappel du principe de la mise à l'épreuve, hein, au verset 20. Moïse dit de la part de Dieu, « Ne vous effrayez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez toujours sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. » Dieu nous met à l'épreuve. Voilà, pour voir comment on va réagir. Et puis en conclusion, vous avez le rappel du désir de Dieu de les bénir. « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Voilà, verset 24, hein, ça c'est le désir. Ça c'est le premier rappel, donc la première mention de ce texte fondateur. Et puis ensuite, vous avez le deuxième. Deuxième mention de ce texte fondateur, c'est dans Lévitique chapitre 26, versets 1 à 13. Hein, donc, en ce qui concerne la loi, toujours. Hein. Je ne vais pas le lire non plus, mais qu'est-ce que j'y trouve ? J'y trouve un appel solennel réitéré à obéir au commandement de la loi dans diverses situations, en même temps que la promesse des bénédictions, si cela est le cas. Et là encore, nous avons un rappel de leur libération. « Je suis l'Éternel, ton Dieu », verset 13, « qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Amen. Parce qu'ils n'ont plus besoin de se courber sous le joug de l'esclavage. Ils peuvent se redresser pour aller de l'avant. Et puis parce que maintenant, ils peuvent lever les yeux vers leur Rédempteur et vers leur Libérateur avec reconnaissance et avec foi. Et ainsi voyons-nous que la loi est mise en évidence comme moyen privilégié de gérer cette liberté. Gérer cette liberté qui a été si nouvellement et si chèrement acquise. Et puis le troisième mention de ce texte fondateur de la loi, c'est en Deutéronome chapitre 5, verset 6 au verset 20. Alors là, c'est un rappel que Moïse fait à la nouvelle génération. Mais l'ancienne génération était morte dans le désert à cause de leur désobéissance. La nouvelle génération qui va entrer dans le pays promis, il leur fait ce rappel de cette loi, de ce texte fondateur. Et là encore, par deux fois, leur libération est rappelée. À nouveau dans l'introduction, verset 6, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et au verset 15, donc à la fin, vers la fin plutôt, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. » Amen. Frères et sœurs, combien cette réalité est importante, pour eux comme pour nous, pour une bonne et juste compréhension de la loi. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que la loi, c'est pour nous mettre sous un fardeau d'obligations et d'interdictions, et ceux-là n'ont rien compris. Rien compris du tout, hein ? Rien compris du tout. Mais ceux qui considèrent cette loi d'en haut comme une grande bénédiction, comme un grand avantage, comme un grand privilège, comme un instrument unique de gestion de la liberté que nous avons en Christ, ceux qui pensent que c'est par elle, par cette loi, qu'ils pourront le mieux bénéficier de tous les avantages, de toutes les bénédictions, de toutes les ouvertures de cette liberté selon Dieu, eh bien ceux-là seront pleinement heureux, ceux-là sont pleinement épanouis, ceux-là verront les promesses de Dieu et seront de l'approbation de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut conclure sur cette remarque-là avec Jacques chapitre 1 verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. » Et Jacques, chapitre 2, verset 12, nous dit encore, « Parlez et agissez comme vous devant être jugés par une loi de liberté. Amen. » La cinquième remarque nous fait rappeler que les 10 commandements, en fait, n'introduisent rien de fondamentalement nouveau, même à l'époque. À l'époque, vous savez, ce serait pas difficile de démontrer que tous les patriarches qu'il y a eu avant, depuis Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job, et même Moïse jusque-là, savaient toutes ces choses. Hein. Ils savaient chacune de ces choses qui étaient contenues dans les 10 commandements. Hein. Ils les connaissaient chacun avant que Dieu ne les écrive avec son doigt sur le table des pierres au mont Sinaï. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf, me direz-vous ? Eh bien, ce qu'il y a de neuf, la nouveauté, c'est celle d'un texte fondateur pour un nouveau peuple qui est là en train de se constituer au creux du désert, et ce peuple n'existait pas auparavant en tant que peuple. Hein. Donc, c'est la réunion de ces lois qui existaient auparavant, c'est leur synthèse de ces lois-là, sous la houlette des deux premiers commandements, c'est vrai, et c'est l'ensemble de tout ça qui constitue la nouveauté révolutionnaire qui a des répercussions puissantes jusqu'au milieu de nous ce matin. Voilà. Hein. Pour aider à comprendre, prenez un parallèle, celui de la Constitution de la République française, qui a été écrite, rappelez-vous, donc, dans les années 1789 et qui ont suivi. Cette Constitution, qui est toujours celle de notre pays, elle ne contenait aucune nouveauté lorsqu'elle a été écrite. Hein. Les idées qui y sont contenues étaient déjà véhiculées, étaient déjà discutées depuis longtemps par les philosophes de la Renaissance, par les pré-réformateurs, par les réformateurs, les siècles, les philosophes du soi-disant siècle des Lumières, pour faire court, etc. Et la Révolution, ça a été de les réunir en un seul texte, en un seul corps, et de vouloir appliquer ça à un nouveau peuple, un peuple de citoyens libres et égaux en droit, un peuple de républicains. Enfin, ça, c'était l'idée, hein, voyez-vous. C'était l'idée, mais c'est pour montrer. Et ça nous aide à comprendre que ce qui s'est passé au Sinaï, ce n'était pas une démarche bizarre, hein, mais c'était vraiment quelque chose qui correspond à des besoins humains de toute l'humanité, de tous les temps, ça a toujours été comme ça, besoins individuels comme communautaires. Et on peut même prétendre, on peut même aller plus loin encore, qu'au point de vue du contenu fondamental, il n'y a rien de plus dans le serment sur la montagne, dont il est question au début de l'évangile de Matthieu, rien de plus que dans la révélation des 10 commandements d'Exode chapitre 20. Hein. Là encore, le sermon sur la montagne, c'est un système de choses qui existait déjà. Vous retrouvez tous les éléments du sermon sur la montagne dans l'Ancien Testament. Même, vous pouvez les retrouver tous dans le livre, simplement dans le livre des Proverbes, hein, si vous étudiez la chose de près. Mais ces éléments sont ainsi réunis pour la première fois dans la bouche de Jésus, hein, réunis. Et ils sont approfondis ensemble dans leur interprétation pour la première fois. C'est ça aussi la nouveauté. Et à nouveau, c'est pour la fondation, c'est pour la constitution d'un nouveau peuple. Jésus, à ce moment-là, hésite encore. Il hésite pour savoir si ce peuple va être primordialement constitué d'un Israël régénéré. Ça, c'était le plan A qu'il aurait bien voulu voir s'accomplir. Mais malheureusement, quand il arrive à la fin de son séjour sur terre, il est obligé de dire « Israël, Israël, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Voilà. Donc, il va être obligé de passer au plan B. Et le plan B, c'est nous-mêmes. Le plan B, c'est un peuple de païens régénérés dans le cadre de l'église de la Pentecôte. Donc, c'était quelque chose qui était encore à venir à ce moment-là. Mais là encore, nous voyons que la grande révélation de Christ qui va s'opérer, c'est dans cet exposé de la nouvelle naissance. Sans précédent, hein, Jésus, dans Jean chapitre 3, va parler de la nouvelle naissance avec ses conditions, avec ses implications, aussi au niveau du baptême, le comportement surnaturel qui en résulte par le secours du Seigneur. Hein, donc, et tout ça, c'est le serment sur la montagne et ce sont ses développements. Mais rappelez-vous que la nouvelle naissance, ce n'est pas un appendice de la loi, ce n'est pas une annexe de la loi. Elle est déjà liée profondément à la loi, même dans l'Ancien Testament. On le voit clairement. C'est une condition pour pouvoir aimer la loi et la mettre en œuvre. Lorsque le prophète Ézéchiel dit au chapitre 11, au verset 19, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps, le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. » C'est la nouvelle naissance, ça! Lorsque vous lisez dans Jérémie chapitre 31 verset 33, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est la nouvelle naissance, ça. Lorsque vous regardez au verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. N'est-ce pas la nouvelle naissance encore? Nous le voyons très clairement. Et ceci nous amène à notre septième remarque. Nous pouvons dire que là où la grande révélation par l'apôtre Paul s'opère, bien, c'est justement dans l'approfondissement de la compréhension du mécanisme de la nouvelle naissance qui doit amener à une mise en œuvre de la loi selon Dieu. Donc, c'est là qu'il dénonce le salut par les œuvres au moyen de la loi. Il le fait clairement, il commence par faire le ménage. Il met en évidence la malédiction, la condamnation pour ceux qui utilisent la loi à mauvais escient. On a parlé autant les légalistes d'un côté que les libertins de l'autre. Il insiste aussi sur l'aspect pédagogique de la loi qui doit nous amener au pied de la croix de Jésus-Christ, hein, par la conviction de péché, la repentance, la foi et l'obéissance. Voilà. Et puis, s'il est obligé d'insister à ce point-là, c'est parce qu'il a affaire à qui ? Il a affaire aux pharisiens qui ont monté le système, leur système, vous savez, de légalistes. Ils l'ont perfectionné à un tel point. Hein. Donc, il est obligé de lutter contre ça. Pourquoi ? Parce que justement, ces mauvaises idées-là auraient eu tendance à s'infiltrer dans les églises. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles a été écrite l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates et l'Épître aux Hébreux spécialement. Hein. Mais ça ne doit jamais nous faire oublier ça. Ça ne doit jamais nous faire oublier la conception très positive de la loi et de sa mise en œuvre. Vous trouvez ça dans tout l'Ancien Testament. Hein. Ça a été repris par Jésus exactement, sans faillir. Et ça a été repris à la suite par l'apôtre Paul, par l'apôtre Jacques, par l'apôtre Jean spécialement. Pourquoi est-ce que je ne dis pas Pierre ? Ben, je pourrais dire aussi Pierre, mais j'en parle un peu moins parce que Paul, à un moment, a dénoncé chez lui une tendance momentanée à judaïser. On le voit lorsque vous lisez le psaume 119. Mais comment ne peut-on pas être émerveillé ? Combien j'aime ta loi ! Elle est chaque jour l'objet de ma méditation. Et lorsque vous lisez tout ce psaume, vous voyez combien l'insistance est mise, répétée, développée sur les caractères très positifs de la loi tout au long des 175 versets de ce psaume. On le voit, hein. Et on pourrait parler aussi de bien d'autres psaumes de David où l'insistance est mise aussi sur l'amour de la loi, sur l'obéissance qui en résulte. Esdras se distingue par son attachement à la loi de Dieu pour sa mise en pratique. Daniel se singularise par son irréprochabilité de la mise en œuvre des commandements de la loi de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, Zacharie et Anne sont décrits comme observant de manière irréprochable toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Dans Josué chapitre 1, versets 7 et 8, il nous est rappelé la possibilité d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Et puis je dirais surtout, dans la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 3, nous avons ce lien qui est fait entre la complète obéissance et puis la réalité de la nouvelle naissance dans un cœur, dans une vie, lorsqu'il est marqué « Car les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Amen. Hein ? Et puis j'aimerais conclure simplement avec diverses, une neuvième remarque, avec diverses appellations et désignations de la loi qui nous rappellent combien elle doit être pour le croyant précieuse, utile et bénéfique. Et tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Hein. Donc vous avez Romains chapitre 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 2, et vous accomplirez la loi de Christ. Ésaïe 42, verset 21, parle de la publication par Dieu d'une loi grande et magnifique. Romains chapitre 13, verset 8, nous dit que celui qui aime les autres a accompli la loi. Et au verset 10, il est marqué « L'amour est l'accomplissement de la loi ». Dans 1 Timothée 1, verset 8, « La loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime ». Dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 11, « Celui qui parle mal d'un frère ou juge un frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, ce que tu devrais être, sous-entendu, mais tu en es juge. » Et puis rappelons que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour... Quoi ? L'accomplir, exactement. Il est venu pour l'accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Et il a réalisé ça de trois façons. La première, c'est par sa vie, par ses œuvres parfaites, sans qu'il soit possible de le convaincre de péché en aucune façon, en ayant accompli toute la loi de Dieu, la volonté de Dieu, et en ayant mis le comble à son amour pour tous les hommes. Et puis la deuxième façon, c'est par son interprétation approfondie de la loi, le sens profond de la loi, qu'il a mis en évidence comme jamais, et c'est pour ça que cette fois, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, vous trouvez, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens une chose. Mais moi, je vous dis. Voilà. Donc, il exprime l'interprétation profonde de la loi. Et puis, je dirais aussi, bien sûr, il a accompli la loi par son insistance profonde sur la nouvelle naissance, sur la nécessité de la nouvelle naissance qui nous transforme par le Saint-Esprit. condition indispensable, évidemment, pour accomplir, pour obéir à la loi. Alors, en conclusion, eh bien, nous sommes invités à reconnaître de tout cœur combien cette loi divine est sainte, juste, bonne, nécessaire, spécialement dans notre vie, dans notre relation avec Dieu et certainement aujourd'hui plus que jamais. Et puis nous sommes invités à considérer combien l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est au fondement de cette loi. Et donc aussi bien sûr l'amour pour le prochain. À considérer aussi combien la grâce de Dieu est présente dans cette loi, combien elle est préparatrice et annonciatrice de la pleine grâce qui est en Jésus-Christ. Et à considérer aussi que cette loi est destinée à nous aider à gérer notre liberté et à nous faire jouir pleinement de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et combien cette loi aussi implique la nouvelle naissance, bien sûr, combien elle est liée, combien elle fait ainsi partie des moyens privilégiés de Dieu pour le plein accomplissement de ses promesses et de ses bénédictions. Alors, frères et sœurs, que nous puissions avoir à cœur d'aimer cette loi qui se confond avec la parole de Dieu, nous y attacher à y obéir de tout notre cœur, avec le secours du Saint-Esprit, y obéir pleinement avec l'assurance que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, et sur quel soutien puissant nous pourrons compter de sa part pour l'honorer, pour faire sa volonté. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui nous fortifiera, nous affermira, nous rendra inébranlables. Béni soit son nom, gloire à son nom. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, c'est encore toi qui véritablement veux accomplir ton œuvre au milieu des tiens, dans nos cœurs et dans nos âmes, Seigneur. Et béni sois-tu pour cette grande et merveilleuse loi que tu nous as donnée, Seigneur. Béni sois-tu parce qu'en même temps, nous voyons combien elle est imprégnée de ton amour, combien elle est imprégnée de ta grâce, de ta sagesse, Seigneur. Combien tu es celui qui veut nous rendre libres encore, Seigneur. Combien tu es celui qui veut nous accomplir toutes tes promesses en notre faveur. Et combien tu es celui qui, par ton bon esprit, veut opérer ton œuvre afin que nous puissions te glorifier ainsi. Merci, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, alléluia. Voilà, donc, je vous rappelle qu'il y a un camp de jeunes à Chalon qui, cette semaine, ça commence mardi, ça doit durer jusqu'à jeudi soir. Donc, il y a encore moyen de s'inscrire ou de se renseigner auprès de Jean-Baptiste. Donc, sinon, le mercredi soir, nous avons à 19h15 la séance de questions bibliques avec des réponses pour ceux qui ont des questions. Et puis, la réunion de prière, donc, dans la suite, à 20h15, le mercredi toujours. Pas besoin de s'inscrire pour participer à cette réunion-là. La prédication et témoignage en ligne le vendredi à 20h15 sur le site de l'Église. Et que, voilà. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie en lui. Alléluia. Merci, Seigneur.